Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bon début de semaine, et quelle semaine! À partir de mercredi, nous serons à Abidjan. Mercredi, la CDAO célébrera ses 50 ans, un anniversaire sur fond de crise. Pour l'occasion, nous dresserons ensemble le bilan de ces 5 décennies. Nous parlerons évidemment politique, mais aussi libre circulation des biens et des personnes, lutte contre le terrorisme ou encore monnaie unique. Jeudi, toujours à Abidjan, la Banque africaine de développement désignera son nouveau président. Là-bas, qui mobilise des dizaines de milliards de dollars dans les infrastructures, l'agriculture, l'industrialisation du continent. Mais pour quel changement concret dans votre vie quotidienne? Eh bien, son président sortant, Akinwumi Adesina, sera à mes côtés. Il répondra à vos questions. Et puis vendredi, émission 100% politique ivoirienne. On est à 5 mois de la présidentielle. Le climat étendu, eh bien vous pourrez dialoguer avec les représentants des principaux partis politiques. Voilà donc pour le programme. Vous vous inscrivez dès maintenant, évidemment, pour participer à ces différentes émissions. Ce matin, nous parlerons, d'ici une petite demi-heure, du Sénégal, où plusieurs anciens ministres de Macky Sall sont dans le viseur de la Haute Cour de justice. Détournement de fonds, corruption. La semaine dernière, 4 d'entre eux ont été inculpés. La liste pourrait d'ailleurs s'allonger dans la journée. En tout cas, l'opposition dénonce un acharnement politique. Nous lancerons le débat, donc, dans une demi-heure. Vous êtes déjà nombreux. Merci à tous de votre fidélité. Beaucoup de réactions, et on le comprend, évidemment, sur les réseaux sociaux, en provenance du Sénégal, d'un peu partout, d'ailleurs, Saint-Louis, Dakar, Ziguinchor, Bambay, Tambacounda et bien d'autres villes sénégalaises. Mais d'abord, vous le savez, ce sont vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. On commence avec vous, Jimmy. Bonjour.
Bonjour, Juan Gomez. Bienvenue chez nous.
À Bounia, en République démocratique du Congo, et merci de nous accueillir. Vous avez, Jimmy, des questions après l'accord historique signé la semaine dernière entre le Royaume-Uni et l'île Maurice.
Tout à fait, Juan. Les îles Chagos ont été rétrocédées par le Royaume-Uni vers l'île Maurice. Mmh. Les Britanniques paieront désormais annuellement les bails de leur base militaire Diego Garcia. Pourquoi les Britanniques veulent à tout prix garder leur base militaire?
Ah, c'est une bonne question que vous posez. C'est vrai que le Royaume-Uni a accepté de rétrocéder l'archipel des Chagos, mais les Britanniques vont bel et bien garder cette base militaire de Diego Garcia. Bonjour Abdoulaye Orali.
Bonjour Juan,
correspondant de RFI à Port-Louis, expliquez-nous pourquoi le Royaume-Uni tient-il à cette base navale?
Eh bien, il faut vraiment regarder une carte pour comprendre pourquoi les Britanniques et les Américains tiennent tant à Diego Garcia. Cette base est située presque au centre de l'océan Indien, ce qui en fait un point d'ancrage militaire ultra stratégique. Depuis cet atoll, donc l'archipel des Chagos, les militaires peuvent projeter leurs forces vers l'Afrique de l'Est, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est également. La base de Diego Garcia est aussi un avant-poste de surveillance clé sur les grandes routes maritimes, par exemple le canal de Suez, Bab el-Mandeb, le détroit de Malacca, le canal du Mozambique. Bref, toutes les grandes voies d'approvisionnement mondial qui passent à portée.
Ah oui. Et l'autre avantage, Abdoulaye Orali, c'est son isolement.
Oui, Diego Garcia est loin de tout, en effet, loin des populations, loin des menaces terrestre, cela lui donne une grande discrétion opérationnelle, donc moins de risques et plus de liberté pour les militaires. Il ne faut pas oublier aussi que cette base a servi dans toutes les grandes opérations militaires de notre époque, le Vietnam, les deux guerres du Golfe, l'Afghanistan. Soulignons aussi que les enjeux géopolitiques ont beaucoup évolué aujourd'hui. À sa création dans les années 70, Diego Garcia servait surtout à contenir l'influence soviétique. Aujourd'hui, c'est la Chine qui est dans le viseur avec les enjeux dans l'Indo-Pacifique. Alors, je termine aussi, Juan, par cette image qui décrit la base de Diego Garcia comme un porte-avions insubmersible.
Ah oui, effectivement, c'est une image qui correspond à la réalité. Jimmy, vous avez une autre question?
Oui, les 2000 personnes qui avaient été expulsées dans les années 60 et 70 vont-elles pouvoir revenir sur les îles? Si oui, qui va prendre en charge leur retour ?
Alors, Abdullah Eurali, je vous ai écouté attentivement ces derniers jours sur RFI. Effectivement, elles vont pouvoir revenir, mais pas partout, hein, si je vous ai bien suivi.
Oui, il faut préciser que les Chagossiens vont pouvoir retourner sur leurs îles natales, à l'exception de Diego Garcia, qui reste sous bail militaire américain. Le traité signé entre Maurice et le Royaume-Uni prévoit le droit de retour sur les autres îles qui étaient alors habitées, je cite Péros Banos et Salomon, connues comme des îles qui étaient habitées à l'époque. Sinon, c'est le gouvernement mauricien qui pilotera ce processus de retour. Un comité présidé par le Premier ministre, avec des représentants chagossiens bien sûr, sera chargé de définir les projets et mettre en œuvre tout sur l'archipel. Parallèlement, les Chagossiens ont annoncé des sessions de travail de leur côté, et ce sera le mois prochain, avec des experts internationaux pour élaborer un plan de repeuplement de l'île. Alors, il faut aussi rappeler que selon le groupe réfugié Chagos, la population chagossienne serait entre 9 000 et 10 000 personnes, principalement installées à Maurice en ce moment, mais aussi au Royaume-Uni et aux Seychelles. Alors, ce plan de resettlement, comme ils appellent, le plan de repeuplement, devra inclure un aménagement durable des îles et des activités économiques viables en s'appuyant sur les atouts immenses de ce territoire. Ce territoire qui possède une zone marine de 650 000 km², 3500 hectares de cocotiers et aussi un fort potentiel touristique. Enfin, les Chagossiens demandent aussi le droit de travailler sur la base de Diego Garcia, comme beaucoup d'employés étrangers qui se trouvent là-bas en ce moment.
Jimmy, a-t-on répondu à vos questions ?
Tout à fait, Juan. Début de semaine.
Et bon début de semaine à vous également. Merci infiniment, Abdullah Eurali, d'avoir été en direct avec nous depuis Port-Louis, où on nous écoute également. Merci de votre fidélité. 10h17 à Paris, Antoine Grenier, du service des sports de RFI, s'installe. Soyez le bienvenu, Antoine.
Bonjour, Juan. Bonjour tout le monde.
On va parler football. On a des questions sur le Real Madrid. Mina.
Oui, Juan Gomez, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Antoine.
Bonjour, Mina.
Vous êtes à Dabola, c'est en Guinée. Nous vous écoutons.
Oui, je suis à Dabola, au centre géographique de la République de Guinée. Au fait, j'ai des questions sur Luka Modric.
Oui.
Le milieu de terrain, Luka Modric a décidé de quitter le Real Madrid. Le joueur est resté presque 15 ans au sein du club. Comment expliquer cette longévité ?
Ah.
Quelle est la prochaine destination de Luka Modric ?
Oui, Antoine Grenier, c'est une page qui sonne au Real Madrid. Luka Modric a d'ailleurs joué samedi son dernier match à Santiago Bernabéu. Quel professionnalisme !
591 matchs ouais. Avec le Real, 43 buts marqués. Il en a encore joué 56 cette saison, ce qui est énorme pour un joueur qui a presque 40 ans. Il les aura 39. Le 9 septembre.
Oui.
Il est arrivé au Real en 2012, Luka Modric, recruté par José Mourinho, qui avait mis à l'époque presque 40 millions d'euros pour un joueur qui avait 27 ans. C'était un recrutement qui avait été un peu critiqué à l'époque et qui finalement a donné, mine de rien, 6 Ligues des Champions et un Ballon d'Or.
Quel palmarès, effectivement. Un joueur exemplaire en tout point.
Oui, avec cette première base qui est nécessaire pour percer, c'est un talent hors norme. Hein. Quand on voit le jouer, Luka Modric, ça saute aux yeux. Une touche technique avec ses délicieux extérieurs du pied, une qualité tactique aussi, sa vision du jeu qui a souvent fait la différence quand il la couplait à sa capacité à trouver des passes que personne d'autre n'imaginait. Sébastien Bassong, l'international camerounais qu'il a connu à Tottenham l'appelait Mozart et il le qualifiait de machine à laver, c'est-à-dire on lui donnait un ballon sale, il vous le rendait propre. Au Real, Modric il a beaucoup progressé quand il est arrivé de Tottenham, notamment dans le pressing, et ça a été pour cela en partie un élément indispensable d'entraîneur aussi exigeant et aussi différent que José Mourinho, Zinedine Zidane ou Carlo Ancelotti.
Ouais, de par son niveau de jeu et de par son sérieux aussi.
Oui, c'est un immense professionnel, hein. Tout le monde lui reconnaît ça et c'est l'autre élément qui est nécessaire pour durer au haut niveau, c'est son physique, discipline de fer. Voilà, c'est à ça qu'il s'est astreint Luka Modric pendant toute sa carrière. Ça compte dans sa longévité. Il travaille depuis très longtemps avec un préparateur physique qui s'appelle Vlatko Vucevic, qui est docteur en kinésiologie. Alors, c'est une discipline qui n'est pas reconnue par l'OMS, qui établit un lien entre les muscles et le système nerveux, pour faire très très simple. Mais ce qui est sûr, c'est que Modric, il a suivi les programmes à la lettre pendant 300-310 jours par an.
Et il n'a quasiment jamais été blessé.
quasiment pas. Il a mené une vie de spartiate, c'est comme ça que parle de lui son préparateur physique. Il a eu une blessure en 2014-2015, il a été touché à l'ischio, il a raté 4 mois, mais c'est sa blessure la plus longue. Tout le reste, c'est vraiment des toutes petites blessures. Ça s'explique aussi, non seulement par son sérieux, mais par son style de jeu, parce qu'il évite les contacts. Sa touche technique lui permet de jouer un petit peu plus loin des tacles des adversaires. Et puis enfin, le dernier aspect pour expliquer sa longévité, c'est que c'est un joueur qui est totalement anti-bling-bling, mais vraiment anti-bling-bling par excellence, et dans un effectif de stars, ouais, comme le Real, qui est très scruté par les médias, ben c'est précieux d'avoir un joueur qui équilibre un petit peu tout ça en affichant sa sérénité.
Ouais, Modric disait en préambule, et il est toujours avec nous, enfin Mina disait en préambule, Modric a décidé de quitter le Real. Non, c'est pas vrai.
Non,
c'est le Real qui a voulu qu'il parte.
Hein. Depuis plusieurs saisons, il signait des petits contrats d'un an, parce que c'est la politique du Real avec les joueurs qui ont dépassé les 35 ans. Cette fois-ci, il ne sera pas renouvelé, il va finir
Où va-t-il la saison prochaine?
Où va-t-il aller? Alors, a priori, il se plaît bien à Madrid, il s'y serait vu rester.
Sa
famille et sa femme aiment beaucoup la ville, donc on envisage du côté de la presse madrilène la possibilité qu'il puisse jouer à Getafe, qui a fini 13e du dernier championnat, et qui est une ville qui est vraiment au sud de Madrid, donc vraiment pas très très loin. Après, c'est une des possibilités, évidemment on le voit pas s'il reste à Madrid aller à l'Atlético, surtout après 13 ans au Real, mais il est possible aussi, il y a des touches en MLS, il va aller aux États-Unis pour le Mondial des clubs avec le Real, et il va y disputer la Coupe du Monde 2026 si son physique le porte jusque-là avec la Croatie, donc pourquoi pas. Et puis il y a aussi éventuellement la possibilité, là aussi d'après la presse espagnole, qu'il puisse rejoindre son premier club, le Dinamo Zagreb.
Ah bon, on suivra ça bien évidemment. Mina, a-t-on répondu à vos questions?
Je suis très satisfait et je remercie Antoine.
Antoine Grenier,
avec plaisir,
du service des sports de RFI, qui revient demain matin, j'imagine, pour la matinale.
Je serai là, évidemment.
Avec les derniers résultats et les dernières informations sportives. Merci infiniment. Bonne journée à tous les deux. 8h22 en temps universel. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous écoutez le journal, vous lisez peut-être une information sur le site RFI.fr et vous souhaitez un complément d'information. Eh bien, on est là tous les matins. On vous répond avec plaisir en direct. Pierre-Édouard Roland nous appelle de Douala. Bonjour Pierre-Édouard Roland.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à l'équipe de l'Appel sur l'actualité et bonjour à toute la famille de Magou.
Magou, très bien. Vous êtes où exactement au Cameroun?
Je suis à Douala.
À Douala.
Dans la ville économique du Cameroun.
Oui, Douala qu'on connaît bien, bien évidemment. Pierre-Édouard Roland, vous avez des questions sur la guerre en Ukraine?
Tout à fait Juan. L'Union européenne vient d'imposer un nouveau train de sanctions contre la Russie visant sa flotte fantôme. Mmh. Que fait-on de ces navires et pourquoi sont-ils ciblés?
Il s'agit d'ailleurs de la 17e vague de sanctions adoptées par les Européens contre la Russie depuis son invasion de l'Ukraine il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Bonjour Cyril Brett.
Bonjour, bonjour à RFI et bonjour à Douala.
Géopoliticien, maître de conférence à Sciences Po Paris, chercheur associé, spécialiste de la Russie et de l'Europe orientale à l'Institut Jacques Delors. Pierre-Édouard Roland le rappelait à l'instant, ce dernier train de sanctions cible des navires fantômes. De quoi parle-t-on?
Oui, on parle de navires qui ne sont pas enregistrés ou qui sont enregistrés sous d'autres noms. On parle de navires qui ne sont pas assurés. On parle surtout de navires qui font du trafic d'hydrocarbures ou de minerais, de gaz, de pétrole, de fer, d'autres minerais en contravention avec les trains de sanctions de l'Union européenne et qui donc, en fait, ruine la stratégie des sanctions de l'Union européenne. Les Russes, les sociétés russes qui les exportent peuvent encore toucher des recettes et donc c'est l'effort de guerre russe qui est financé.
Combien sont-ils? Est-ce qu'on a une estimation ou une idée précise?
On a une estimation de plusieurs centaines, 300, 500. Évidemment, c'est un trafic clandestin, donc il est très difficile de les tracer. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça n'est pas une goutte dans l'océan. C'est vraiment une flotte complète et ce sont de très grandes cargaisons qui génèrent de réelles recettes pour l'effort de guerre russe.
Voilà, pétrole de contrebande qui permet donc à la Russie de financer la guerre. Pierre-Édouard Roland, vous avez une autre question?
Oui, Juan. Est-ce que ces nouvelles sanctions peuvent vraiment avoir un impact sur le conflit et pousser la Russie à vouloir la paix?
Ouais, c'est une bonne question, Cyril Brett. On se demande quelles mesures aujourd'hui peuvent vraiment encore impacter véritablement l'économie russe?
Oui, moi je suis comme Pierre-Edouard, ça s'empile, c'est la 17e, on va s'arrêter quand? À quoi ça sert? D'abord, ça sert à dire que sur le principe, on n'est pas d'accord avec l'invasion de la Russie pour l'Ukraine. Donc ça sert à un principe, un rappel de principe. Non, modifier les frontières en envahissant son voisin, ça n'est pas acceptable. Ça a un autre impact, mais c'est un impact qui est plus différé, qui est de priver les entreprises et la Fédération russe de recettes du commerce, recettes d'emprunts sur les marchés financiers, pour les priver d'une ressource importante. Il faut bien avoir en tête que l'Europe, c'était le principal client de la Russie avant la guerre, et de très très loin. Donc c'est comme si un magasin était boycotté par son principal client, ça fait mal. Mais ça ne fait pas mal tout de suite. Le magasin ne ferme pas tout de suite. Et donc, en fait, ça va contraindre la Russie à changer, mais à terme. Mmh. Et puis surtout, à la fin, au moment où on va discuter véritablement des solutions de la paix pour l'Ukraine, les Européens pourront dire à la Russie, vous voulez qu'on accepte vos conditions? Eh bien, très bien, acceptez les nôtres. Et nous démantèlerons progressivement nos sanctions si nous voyons que vous êtes sincère et que vous faites ce à quoi vous vous engagez. En fait, c'est un levier de négociation différé. C'est un levier pour la paix.
Oui, enfin, vous le disiez vous-même, on est au 17e paquet de sanctions et un 18e paquet est en préparation. On suivra ça, évidemment. Merci en tout cas, Cyril Brett, d'avoir pris quelques instants, chercheur associé spécialiste de la Russie et de l'Europe orientale à l'Institut Jacques Delors. Dernière question pour ce matin, évidemment. On sera de retour demain, 8h10, temps universel. Séverin, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez. Bonjour à tous les auditeurs de la RSI.
Au Togo. On vous écoute.
Oui, je suis à Sotoubo, Togo. Mes questions sont en rapport avec les expulsions massives de migrants par l'Algérie vers le Niger, qui soulèvent de vives inquiétudes chez des ONG qui demandent l'arrêt de ces expulsions. Ma première question, c'est quelle est la position des autorités nigériennes concernant ces pratiques?
Oui, 6000 expulsions rien que le mois dernier. Bonjour Florence Boyer.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'unité de recherche migration et société à l'Institut de recherche pour le développement. La situation humanitaire de ces migrants, elle est particulièrement préoccupante. De quelles informations disposez-vous?
Alors oui, la situation humanitaire est assez préoccupante, en particulier à Samaka, donc qui est le poste frontière où sont expulsées, rassemblées toutes ces personnes. Il y avait quand même une distinction qui, on va dire, historique, en quelque sorte, du point de vue des autorités nigériennes et algériennes, entre ce qu'on appelle d'un côté des convois dits officiels, qui sont composés très majoritairement de Nigériens qui sont ramenés directement à Samaka ou à Arlit par les autorités nigériennes, et des convois dits non officiels, où les personnes qui sont majoritairement non Nigériens, mais il peut y avoir aussi des Nigériens, des Nigériennes parmi eux, sont déposés au point zéro, donc à 15 km d'Samaka, et ensuite doivent marcher jusqu'à ce poste frontière.
Sous des températures qui frôlent parfois les 50 degrés.
Tout à fait, voilà ce que j'allais dire. Samaka est en plein Sahara, c'est un tout petit poste frontière où il y a une présence humanitaire mais qui est extrêmement limitée. Il y a un centre de l'OIM qui ne parvient pas à prendre en charge toutes ces personnes. MSF est également présent, l'ONG COPI et Alarm Faune Sahara, qui est la seule organisation de la société civile nigérienne présente actuellement sur place.
Quelle est la marge de manœuvre des autorités nigériennes face à ces expulsions massives?
Alors, disons que l'origine et le début de ces expulsions remontent à 2014, dans un moment où les Nigériens, le gouvernement nigérien avait demandé aux autorités algériennes de ramener en quelque sorte leurs ressortissants sur le territoire nigérien à la suite donc d'un accident qui avait eu lieu dans le Sahara, qui avait fait 92 morts, donc d'un camion qui était tombé en panne. Et disons que cette question de l'émigration nigérienne vers l'Algérie avait fait la une de l'actualité à cette période. Et la réaction de l'ex-président Bazoum, enfin du président Bazoum, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, avait été de demander aux autorités algériennes de ramener leurs ressortissants. ressortissants.
Ouais. En tout cas, là, ce qui est prévu, c'est de rapatrier 4000 migrants, c'est-à-dire que le Niger, avec l'Organisation internationale pour l'immigration, rapatrierait d'ici le mois de juillet plusieurs milliers de ses ressortissants.